deuxième table ronde qui s'intitule « Réinventer les industries culturelles et créatives par la ruralité ». Alors ruralité, c'est un mot qui maintenant est sur toutes les bouches, hein. D'une part parce qu'on s'est peut-être aussi rendu compte dernièrement que la ruralité, elle pesait politiquement, mais aussi parce que les enjeux environnementaux la touchent tout particulièrement. Le ministère de la Culture, vous le savez sans doute, a lancé son plan ruralité l'année dernière, donc vraiment dans le but de renforcer la présence de la culture en ruralité, là où les problématiques de distance, d'infrastructure et d'aménagement du territoire sont quand même des enjeux forts qui ont un impact important sur l'art et sur la culture. Et la question qu'on se pose, nous, à Dédale, c'est est-ce que justement les ruralités ne peuvent pas être un terreau fertile pour l'invention de nouvelles façons de faire, moins standardisées et plus en phase avec chaque territoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ruralité est le lieu d'expérimentation. On va parler d'un certain nombre d'entre elles pour en montrer le potentiel d'innovation, mais aussi les limites, bien évidemment. Parce que la grosse difficulté des marges, des alternatives en particulier et des artistes qui y sont, comme me l'a dit une personne en entretien récemment, c'est tout le monde aime qu'il y ait des petits, mais le seul modèle qu'il leur est proposé pour continuer, c'est de devenir des gros. Eh bien, est-ce que justement, on ne peut pas essayer d'inventer d'autres modèles ? Donc, dans cette table ronde, avant que je vous présente les intervenants, on va discuter en deux parties et on commencera par parler d'un autre type de modèle qui est le modèle de l'itinérance. Avec, alors, je représenterai mieux chacun d'entre vous quand vous prendrez la parole, mais j'ai à côté de moi Hélène Henry et Boris Husser, qui sont des artistes, Stéphane Laurent, qui est chercheur associé à l'Université de Franche-Comté, mais qui a aussi d'autres casquettes, on en parlera, Hélène Jouvelot, qui est artiste et à qui appartient le magnifique bus. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous irez le voir, mais on montrera une photo. Et puis Cédric, que vous avez entendu tout à l'heure, en tant que président de l'Odyssée du Cirque. Et donc, pour parler de l'itinérance, eh ben, je me tourne vers toi, Hélène, pour commencer. Donc Hélène, alias la fille qui détournait les bus, comme vous avez pu le voir. Alors, Hélène, est-ce que tu peux rapidement, alors je suis désolée, je vais toujours vous demander de faire rapidement pour que vous ayez la possibilité de parler plusieurs fois et qu'on ait des échanges avec le public, nous dire très rapidement qu'est-ce qui t'a amené à faire ce bus et le type d'activité que tu mènes avec lui.
Pour situer pourquoi j'ai eu ce bus, je vais juste revenir un peu d'où je viens. Donc, moi, très petite, le voyage faisait partie de ma vie et de ce que je voulais faire. Vivre dans un véhicule faisait partie des choses que j'avais envie de faire et l'art. Voilà. Très vite, j'ai passé le BAFA. Donc, moi, je suis vraiment éduc-pop à mort. Voilà, éducation populaire. Je suis toujours avec les CMA de Besançon, formatrice pour des futurs animateurs volontaires ou professionnels. Donc, on est vraiment souvent aussi à travailler sur comment accompagner des publics au musée, comment mettre de la culture là où il n'y en a pas, etc., etc. Voilà, donc l'éduc-pop a vite fait partie de ma vie, au départ en volontaire et puis en animatrice professionnelle. Moi, je faisais partie du lycée Cuvier à Montbéliard, pour ceux qui connaissent, où on était en classe théâtre dans les années 90. Et donc, j'avais la chance d'avoir Jacques Livchine et Hervé Delafont en prof de théâtre. Donc, moi, je suis une intermittente du Théâtre de l'Unité. Dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé les BIT, les brigades d'intervention théâtrale, où on remuait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de connaître la grande époque à Montbéliard du centre d'arrêt de plaisanterie, qui était donc le théâtre de Montbet, tenu par Hervé et Jacques, le palo-palo, le réveillon des boulons en plein hiver à moins 15, tous dans la rue à boire du champagne, etc., etc. Voilà, donc moi c'est vraiment ça, éduc-pop, théâtre de l'Unité, donc quand même un théâtre particulier qui interroge et qui va jouer pour les gens qui n'ont pas forcément accès ou qui ne se déplacent pas forcément pour aller vers de l'artistique, théâtre, musique, plastique, enfin tous les arts réunis. Voilà, donc 18-19 ans, voilà, j'ai mon statut d'intermittente grâce à tout ça, parce qu'on avait des intervenants professionnels et il y en a un qui m'a demandé de monter une compagnie. Donc on a monté la compagnie Mimétis avec le Mime Malou. J'ai très vite appris aussi ce qu'était un artiste avec un ego surdimensionné. On devait se retrouver à Belfort, aux résidences, et puis du coup, il venait pas des fois, parce que bah, finalement, il devait faire autre chose. Puis moi, j'étais là à attendre de répéter. Donc très vite, je l'ai abandonné, grâce à des gens comme Marcel Jean de Dodga Coco ou Jacques Livchine qui m'ont dit « Hélène, barre-toi ». Et puis j'ai commencé à voyager en même temps, parce que du coup, voilà, le milieu artistique, ce qui m'embêtait dans le théâtre, c'était ses égos et puis ces festivals où on se retrouvait tous entre nous. Il y a quelque chose qui me dérangeait profondément, qui ne faisait pas partie de moi, en fait. Donc, je suis partie en humanitaire dans plusieurs pays. Je suis partie avec les Clowns sans frontières à Kinshasa. Je suis partie en Inde, en stage Avdas avec un maître de Kathakali. Je partais pour un mois, je suis restée un an. Et là-bas, je voulais faire des projets artistique, et puis c'est une fourmilière l'Inde, donc je me disais waouh, comment je vais faire sur une place en fait, parce que t'as des gens sur scène, t'as des gens derrière, t'en as partout. Puis je me suis dit tiens, un véhicule ça serait cool, parce que ça ferait la scène en fait, ça serait le décor, le fond de décor quoi. Donc ça m'a trotté dans la tête pendant ce voyage, puis je suis rentrée en France, j'ai retrouvé le théâtre de l'Unité parce que j'avais fait une année de congé sans sol, j'avais relevé mon... À l'époque, c'était ACEDIC ANPE. Et du coup, j'avais relevé mon statut d'intermittente. Et puis, en revenant, j'avais déjà mes heures. Donc, j'avais dit, je suis de retour. Et j'étais redevenue intermittente. Ça, c'était super. Et puis, j'ai passé mon permis bus. Et le bus, pourquoi ? Parce que, autant en Inde, du coup, il y avait plein de gens. Et je pouvais jamais faire ce que je voulais. Parce que c'était très compliqué. Parce qu'on n'avait pas notre espace, en fait, intime. Et ici, dès que je voulais faire quelque chose, on me disait, mais tu peux pas faire ça dans cette salle. Tu peux pas faire ça dans ce village. Tu peux pas faire ça dans ce quartier. Ouais, mais j'ai dit, ça me saoule. Donc je vais me faire mon propre espace. Et j'ai acheté un bus en 2011. Je l'ai aménagé pendant 5 ans parce que je tenais vraiment à faire tout dedans. Donc voilà. Et puis 2015, il a été homologué. Et j'ai un bus pour créer du lien social avec des outils artistiques et culturels. Du coup, donc 2015, il est homologué. Pour dire déjà comment est-ce qu'il a réussi à... faut savoir quand même que déjà avoir un bus, si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Et si t'as pas de réseau, c'est même pas la peine. Heureusement, j'avais pas d'argent, mais j'avais un vrai réseau. Donc le bus, il s'est acheté donc en 2011 dans le Var. Je suis remontée en Franche-Comté et j'ai fini de l'aménager avec la compagnie des Bains-Douches, pour ceux qui connaissent aussi, qui est Claude Accard, hein, qui est le trio, hein, Claude, Jacques et Hervé, qui sont arrivés de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, 2015, moi, le bus, comme disait Mathilde tout à l'heure, la fille qui détournait les bus, en fait, c'est Françoise Jean-Paris, une super journaliste de la région, qui n'est plus journaliste, qui avait écrit ça dans le journal. Et du coup, quand on a commencé avec le bus, il est parti avec le Pudding Théâtre, une compagnie professionnelle du Jura, faire le théâtre de l'épouvante à Châlons. Et en même temps, Ersin Arslan, qui est l'ancien directeur du centre social Escapade à Audincourt, m'a contacté en me disant « Moi, j'avais envie de faire une caravane web, TV, radio, théâtre au cœur des quartiers. » Et quand il a vu que j'avais monté ce bus-là, il m'a plutôt contacté et il m'a proposé un contrat d'animatrice à mi-temps avec mon bus. Donc pendant 2 ans, en fait, j'étais animatrice avec l'escapade et en même temps, je bossais qu'avec le bus dans les quartiers. Donc ça, c'était absolument génial. Et heureusement, je le remercierai encore jamais assez. Donc depuis 2015, il y a toujours eu ce truc entre social, éducation, vraiment éduc-pop, puis vraiment travailler avec des publics de toutes sortes, hein, dans les centres sociaux, dans les centres de personnes handicapées, dans les écoles, etc. Et toujours ce côté théâtre, vraiment professionnel, avec des artistes, avec des projets dans les festivals, etc. Et puis, moi, je fais partie des gens qui a du mal avec les politiques et de demander des subventions, donc j'en ai jamais demandé, parce que je l'ai fait la première année en 2015, On avait deux projets avec la compagnie des Bains-Douches et moi toute seule avec mon asso qui s'appelait à l'époque Via Terra Cultura. Et en fait, PMA a trouvé que vu que c'était un projet, enfin les deux projets, il y avait un bus dedans, ils se sont dit « Oh, c'est le même projet !» Et donc, ils ont refusé nos subventions. À partir de là, j'ai dit « J'en demande plus ». Donc, depuis 2015, on est sans subvention, on fait par prestation ou par bénévolat, etc. Et puis, l'année dernière, Capitale de la Culture, tout le monde en a entendu peut-être parler, le label Capitale de la Culture, deuxième année, première année c'était Villeurbanne, et puis cette année c'est pas une ville qu'il a eu, c'est Pays Montbéliard Agglomération. Donc là j'ai dit en 2023, je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible, si à un moment donné on veut continuer. Donc j'ai déposé un projet pour Capitale de la Culture qui s'appelait le Tour du bus sonore en 73 communes, qui s'est finalement appelé le Studio Mobile. J'ai fait un projet, une demande à 100 000 euros, pour toucher les 73 communes du Pays de Montbéliard. On n'a eu que 25 000 euros, donc j'ai fait que 10 communes, de janvier à décembre. Et donc, nous, ce qu'on voulait avec ce projet, c'est vraiment développer la musique et puis parler, travailler avec les gens autour de la musique. Mais on sait que la musique, voilà, ça peut être conservatoire, école de musique, c'est pas toujours facile. Il y a les concerts, il y a les Eurocaines, il y a les festivals, etc. Mais quand on a envie d'appréhender la musique, quand on a envie d'appréhender certains instruments, des fois, on n'ose pas forcément pousser aussi les portes des conservatoires ou des écoles. On n'a pas toujours les moyens. Et nous, on vient de la rave party avec des copains. On vient vraiment des bois et de la musique électronique. Et donc, depuis qu'on a 16 ans, on en a un peu plus, on a 30 ans de plus. Et en fait, on a eu envie de faire découvrir la musique assistée par ordinateur aux gens des villages du pays Montbéliard Agglomération. Donc, on a décidé de faire un projet qui durait de 10h à 18h. On venait s'installer avec le bus dans le village. On reviendra après sur qui on contactait, comment, tout ça, les compétences. Et du coup, dans le bus, il y avait 10 postes de travail autonomes. Donc, contrôleurs, machines à rythme, synthétiseurs. On s'est offert des super somas, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est des instruments analogiques géniaux. Et puis moi, à l'extérieur, j'étais avec des petits instruments acoustiques. Beaucoup de percussions, mais pas que. On avait aussi des trompettes, on avait aussi des batteries électroniques. Enfin, on est quand même très riche à trois. Là, il y avait deux musiciens avec moi. Et puis, j'avais des petits zooms, vous savez, des petits enregistreurs pour parler avec les gens autour de la musique, quoi. De leur demander quels sons ils entendent en premier le matin, sur quoi ils écoutent leur musique, etc. Et du coup, voilà, on arrivait pour vraiment découvrir avec les... Enfin, les gens venaient... Il y en avait qui savaient, il y en avait qui ne savaient pas. Des fois, ils amenaient leur guitare, des fois, ils amenaient leur saxophone, enfin tout ça. Et on faisait comme ça une journée totalement à pied levé. Enfin, il n'y avait rien de précis. Mais voilà, les gens pouvaient monter dans le bus pour faire et de l'approche de la musique électronique et à l'extérieur avec moi en enregistrement et en petite acoustique. Et ça donnera un objet sonore de 73 minutes qui représente les 73 communes et leur rapport à la musique.
Merci Hélène. Pour continuer à parler d'itinérance, je me tourne vers une autre Hélène et un autre Boris. Alors vous, quand je vous ai demandé comment vous présenter, vous m'avez répondu que vous étiez schizophrène et commerçant sans argent. Ça se pose là. Moi, je vais le dire avec mes mots, vous êtes créateur, créatrice multicarte entre art et dialogue social, en fait. Donc vous faites énormément de choses différentes. Vous n'allez pas avoir le temps de nous parler de tout. Ça n'est pas, je précise, que ce n'est pas votre activité... Ce que vous faites en matière d'art et tout ça, ce n'est pas ce qui vous fait vivre. Vous faites ça à côté, voilà. Vous venez du milieu de l'insertion, toi Hélène et Boris, un peu du spectacle vivant. En tout cas, tu as fait de la régie dans le spectacle vivant. Et vous, les marges dont on parlait, c'est un choix finalement. D'être dans les interstices de la société, vous avez fait ce choix-là. L'itinérance, le nomadisme dont on parle, il est mental déjà chez vous, avant tout, mais vous l'avez aussi traduit. Dans une de vos expériences, on a quelques photos. Ben voilà, là, les gens peuvent voir le bibliobuste installé. J'ai 2-3 photos après pour voir aussi ce qu'il y a autour et tout. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'était le bibliobuste, de comment vous êtes allé aussi en ruralité, puisque c'est ça notre sujet avec, et quelles peuvent être aussi les limites que vous avez rencontrées?
Alors déjà, peut-être vite fait, moi aussi, du coup, je viens de la culture et du militantisme. Il y a aussi ça, je pense, en commun, dans le sens où j'ai eu la chance de participer et d'être dans une association à Besançon pendant 10 ans, de mes 16 ans à mes 26 ans, qui s'appelait LJGLBDLC, ce qui veut dire les jeunes gens là-bas dans le champ. Et on était une trentaine de jeunes à faire le bordel à Besac, mais que dans la culture, voilà, de la musique, du théâtre, du cinéma. Voilà, on avait la chance à l'époque d'être épaulés par la municipalité qui nous mettaient à disposition leurs entrepôts et leurs techniciens. Donc on a pu faire du théâtre de rue avec des marionnettes, du gigantisme, etc., grâce aussi à la logistique du coup proposée par la mairie. Et puis voilà, le militantisme, parce que faisait aussi à l'époque beaucoup de cartes postales et de fanzinas contre à l'époque Pandreau, Pasqua, etc. Donc voilà, on était quand même dans cette mouvance-là. Et puis derrière de l'insertion, et puis derrière la création d'un outil de dialogue social à travers une roulotte, le charabia et le baratin à Belfort, qui là aussi allié l'insertion, la culture et l'éducation populaire dont tu parlais. Voilà, et donc imprégné de tout ça derrière, effectivement, dans un projet plus personnel, on a acquis un camion dans lequel, bien sûr, on peut déménager, hein, on peut transporter des choses, mais c'est aussi là où on dort de temps en temps. parce qu'on aime bien bouger aussi. Et puis, du coup, je vais raconter pour toi, mais un jour, donc, Boris était en train d'isoler le camion, et puis une copine, du coup, parce que dans l'atelier, du coup, dans l'imprimerie de Boris, il y avait une BD Tech à l'époque, et une copine qui était assise là, dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un bibliobus? Et Boris a dit, mais ça va pas, n'importe quoi. Et au final, voilà, ça a germé très vite. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née. Voilà, c'était pas prévu d'avance, on va dire. C'était pas un projet imaginé. Et donc, dans ce bibliobus, on a donc dans le camion une bibliothèque qui est alimentée par des livres que les gens nous donnent. Alors, ce ne sont pas des livres que les gens abandonnent ou dont ils ne veulent plus avoir chez eux. Au contraire, ce sont des livres qu'ils aiment et qu'ils ont du mal à se débarrasser de leur bibliothèque et qu'ils ont envie de donner en partage. Et nous, on prête ces livres aux gens qui le souhaitent. Et vu qu'on est en itinérance et qu'on se promène sur les festivals entre, on va dire, t'as dit quoi tout à l'heure, Strasbourg et Lyon ?
Une particularité du bibliobus, de ce truc, c'est qu'on ne va pas faire de tournée pour récupérer les livres, parce que c'est très pénible, c'est très, très encombrant. Donc on a choisi des points de chute, en fait. Quand on sait qu'on va aller quelque part, on trouve un endroit où les gens pourront rendre les livres. Quand on a démarré vraiment autour de Belfort, et on avait déjà quelque chose comme 12 ou 14 points de chute immédiats entre des librairies, des théâtres, le 19 à Montbéliard, etc. Donc ça permettait aussi, ça permettait aux gens de rentrer à des endroits où ils ne seraient pas forcément allés spontanément. Alors évidemment, les librairies rentrent pas dans ce champ-là. Quand tu prêtes un livre à quelqu'un, tu te dis que bon, la librairie, il n'est pas effrayé, quoi. Mais un crack, par exemple, il n'y allait pas spontanément. Et ça a permis ça. Et maintenant, on a effectivement des points de chute permanents de Strasbourg à Dijon. Alors, on a plus d'une vingtaine de points de chute.
Et donc, c'est maintenant devenu un concept, on va dire ça comme ça, le bibliobus, parce que donc, autour de ce camion, on a aussi un salon de lecture avec une fanzinothèque. Donc pas mal de fanzines quand même précieux, importants. Et puis, donc Boris a une imprimerie artisanale avec sérigraphie et typographie partagée, l'atelier. Et donc, on a aussi une table de vente avec du coup nos productions qui vont des affiches aux t-shirts. Alors, je vous montrerai mon tout nouveau t-shirt.
Non, jamais.
Attends, tout à l'heure. Voilà, mais où aussi on met en valeur, bien sûr, les productions des copains artistes sur le territoire. Donc voilà, on a aussi de belles petites tables de vente dont certains produits, notamment les nôtres, sont plutôt en prix libre.
Ils sont plutôt bien. Les nôtres, ils sont bien.
Voilà. Sachant aussi la petite particularité, c'est qu'on est engagé. Hein, voilà, c'est une bibliothèque qu'on définit humaniste, progressiste et puis libertaire. Voilà, donc on a effectivement, voilà, on n'aura pas, en plus on a 600 bouquins, je crois, à peu près, qui sont répertoriés, donc c'est quand même petit. Voilà, donc effectivement, quand les gens nous donnent plein de bouquins, encyclopédies, des fois en allemand, c'est pas du tout ça le propos, quoi, je veux dire, voilà. C'est pas forcément évident. Du coup, chez nous, on a quand même pas mal de bouquins, voilà. D'ailleurs, si vous tenez des encyclopédies en allemand, on en a. Et donc, on propose aussi des animations, et ça, c'est important, des animations qui vont de l'impression artisanale avec des monotypes. Donc, on va se mettre une plaque de plexiglas, du coup, entre deux personnes. On va peindre le visage de l'autre. Et voilà. Et donc, ça crée vraiment du lien social complètement générationnel. Enfin, là, il y a vraiment des gamins, des grands-mères, etc. Et c'est super chouette parce que c'est surtout ouvert aux gens qui ne savent pas dessiner. Et ça, c'est cool. Et puis, on propose un atelier badge également qui marche super bien puisque on voit vraiment les images autrement. Et ça, c'est très chouette. Et là, vraiment, il y a beaucoup de monde. Et puis, un atelier qu'on fait aussi de temps en temps, un porteur de parole pour ceux qui connaissent. Où du coup, voilà, on va poser une question au public qu'on va afficher sur un grand panneau. Par exemple, je sais pas, le travail rend-il heureux, par exemple. Et donc, les gens du public vont devoir écrire la réponse et on les aide quelquefois sur des grands panneaux également avec plein de couleurs. Et du coup, tout ça devient une exposition, même titre que les monotypes, une exposition sur le lieu.
Juste, parce que dans cette table ronde, initialement, on devait être 7, 2 personnes ne peuvent malheureusement pas être avec nous. Mais je vais juste vous dire un mot de l'image que tu peux mettre de la bulle. Parce qu'on devait avoir ici avec nous Fabrice Creux, qui est le directeur de Culture 70, qui est un opérateur culturel sur le territoire de la Haute-Saône, dont le but est précisément de maintenir une présence culturelle partout dans le département, en contractualisant notamment avec les intercommunalités, c'est-à-dire c'est l'échelon qui a été choisi. Et une de leurs actions est autour de l'itinérance avec cette scène gonflable qui s'appelle la bulle. Et donc, en fait, le Culture 70 propose aux intercos de recevoir la bulle pour des concerts ou pour des choses comme ça. Et donc, c'est une initiative assez intéressante pour les endroits qui n'ont pas de lieu On en construit un. Alors quelque chose qui au départ était hyper vertueux, parce qu'il y a juste un camion qui la transporte, elle tient, vous le voyez ici, c'est des gros ventilos en fait, des gros ventilateurs derrière. Et ce modèle très vertueux est devenu un peu moins avec le coût de l'électricité, parce qu'il faut les alimenter ces ventilateurs, et maintenant vu le coût de l'électricité, ça devient compliqué. Mais je vous montrais ça pour qu'on voit, voilà, l'itinérance, et soit on peut aller avec son bus et construire des choses autour, soit on a des lieux qu'on monte l'espace d'un instant. Alors, vous pourrez poser aussi des questions dessus tout à l'heure. Je suis désolée, on est obligé d'avancer un peu aussi pour donner la parole à tout le monde. La deuxième chose dont on va parler après l'itinérance, on en a un petit peu parlé aussi ce matin, c'est la question de la territorialisation. Comment est-ce qu'on construit une offre culturelle en fait au plus près du territoire qui se fasse avec ses habitants et puis en répondant aux contraintes des territoires. Et donc là, Cédric, toi qui es donc le président de l'Odyssée du Cirque, alors c'est pas ta seule activité culturelle, mais là tu es aussi directeur d'une compagnie de théâtre, voilà. Mais on va parler surtout du cirque aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Pour vous, être ici en ruralité, c'était pas forcément un choix. Comment vous arrivez à vous installer ici, comment vous arrivez à... Qu'est-ce que ça porte comme possibilité ou comme limite ? Et je rebondis aussi sur quelque chose que Luc a dit ce matin dans sa présentation. Il a parlé aussi des objets hybrides ou des secteurs qui ont du mal à montrer qu'ils sont culturels. Et tu pourras peut-être aussi nous en dire un mot, puisque le cirque est quand même un secteur qui est... dont on ne sait pas toujours où le classer, entre le sport et entre la culture.
Merci Mathilde. Oui, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a commencé notre vie dans le territoire de Belfort et plutôt dans une ville, et on a dû partir et on a dû chercher un nouveau lieu, et on s'est retrouvé un petit peu par hasard sur ce territoire ici, à Héricourt, en Haute-Saône. C'était pas un choix, comme tu l'as dit, de s'installer ici. Bon, on nous a éjecté de la ville où on était précédemment. Un des arguments pour nous faire partir, c'était de dire qu'on faisait beaucoup de bruit avec tous les animaux qu'on accueillait au cirque. Ça m'a fait beaucoup rire. C'était des gens qui, effectivement, ne connaissaient pas grand-chose à notre activité, qui imaginaient encore qu'il y avait des girafes et des éléphants, je pense. Ici, bon, il n'y en a pas. Du coup, on s'est retrouvé en Haute-Saône, ici sur ce territoire, et on a dû s'implanter. Et on est encore en train de s'implanter, parce que alors, malheureusement, et j'ai dit ce matin, on est arrivé en 2018 ici. Le temps d'installer, de construire la plateforme, on est en 2019. On commence à ouvrir en 2019 pour refermer deux mois après, pendant les quelques mois de confinement et tout ce qui s'en est suivi. Notre arrivée en Haute-Saône a été plutôt compliquée. Notre implantation à Héricourt a été plutôt difficile. Là, ça fait quelques mois, années qu'on commence à revoir le jour. Ce qui est compliqué pour s'implanter dans un territoire comme celui-ci pour nous, un des vrais freins, c'est le transport. Puis vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs si vous êtes venu ici. On vient très bien en voiture, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour les autres modes de transport, c'est beaucoup plus compliqué. On a un public de jeunes qui pratiquent ici, de jeunes adolescents qui viennent ici et qui, à l'époque où on était sur le territoire de Belfort, venaient en bus, puisqu'on était desservi en bus régulier sur notre site précédent. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. La gare, elle est à 2 km d'ici. Venir en train, c'est donc pas simple. Et venir en bus, c'est impossible. Il n'y en a pas ici. Donc ça fait partie des vraies difficultés que l'on rencontre quand on s'implante ici. Alors on essaye de développer le covoiturage. On a une petite fiche, vous l'avez peut-être vu à l'entrée, où les parents peuvent s'inscrire pour covoiturer et puis emmener les enfants sur les différents créneaux d'activité. Mais c'est quand même vraiment un vrai frein. Cette histoire de transport et de... Et donc on insiste, et bon, Luc n'est pas là, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on insiste pour essayer d'avoir une ligne de bus, quelque chose comme ça, qui puisse nous desservir depuis la gare et nous amener juste ici. D'ailleurs, c'était la communauté de communes avait le projet d'implanter une zone culturelle plutôt développée dans le secteur, ce qui nous aurait permis à nous aussi d'être plusieurs acteurs et de la culture. Alors on avait un projet dans le temps de scène alternative de musique qui aurait pu voir le jour ici. Voilà, on avait plusieurs projets pour développer un pôle culturel ici qui aurait peut-être pu nous aider en termes de transport. Voilà, c'est notre frein principal. Après, pour se développer ici dans une commune comme celle-ci où on est rural mais pas trop, notre principale action, c'est d'intervenir le plus possible, de faire venir les écoles. On travaille très régulièrement, nous, avec les écoles du territoire et du pays d'Héricourt. On les fait venir ici, on leur fait découvrir le cirque, et puis on essaye de planter une petite graine pour que les enfants reviennent ensuite dans nos activités plus régulières. Et ça marche. Hein, on est 250 adhérents, majoritairement des enfants, mais 250 adhérents ici, donc ça marche plutôt bien. Oui, sur la question du... Quand on s'est retrouvé en confinement, un des gros sujets, c'était de savoir qu'est-ce qu'on avait le droit et pas le droit de faire. Et puis, alors, à ce moment-là, on s'est rendu compte que pour l'ensemble... l'État et ceux qui pondaient toutes les règles à cette époque, le cirque, c'était peut-être une activité sportive ou peut-être culturelle, mais on ne savait pas très bien. Donc, on ne savait pas trop quelles règles on appliquait à l'époque. Et c'est vrai que ce n'était pas une question qu'on se posait spontanément, mais à ce moment-là, on s'est dit... Mais au final, effectivement, l'activité qu'on pratique, c'est du sport, c'est de la culture. C'est un peu des deux, parce que vous verrez d'ailleurs, je pense que vous resterez tout à l'heure, vous verrez une petite démonstration de certains de nos élèves, et vous verrez que c'est physique, la pratique est une pratique physique, mais c'est aussi artistique, et on monte du spectacle, on monte des numéros, on joue, on présente d'ailleurs dans un mois et demi ici le travail de tous nos élèves dans un grand festival qu'on organise ici, donc c'est aussi de l'art, et c'est vraiment à la limite des deux, du cirque, du sport et de l'artistique.
Merci beaucoup. Alors toi, Stéphane, tu vas faire encore un peu... tu veux plus parler ? Tu vas faire un peu le lien finalement avec ce qu'on a dit ce matin, la table ronde de ce matin, parce que toi, je l'ai dit, tu es chercheur associé à l'Université de Franche-Comté, mais tu es aussi très investi à divers titres dans le monde des festivals, que ce soit parce que tu participes aux enquêtes de public sur les Eurockéennes, entre autres, parce que toi-même, tu organises, tu es pilote des festivals. Et là, il y a un festival... que tu connais très bien, qui se déroule en ruralité, donc dans le Jura, qui s'appelle le No Logo Festival. No Logo, comme son nom l'indique, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qu'est ce festival et son origine, et en quoi ça peut nous intéresser ici sur les questions de ruralité ?
Ouais, effectivement. Je suis au milieu de tout un truc, là. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est un peu... Oui, effectivement... Comme tu le dis, j'interviens dans le monde des festivals un peu depuis plusieurs années. Et puis, je suis un peu le mec qui fait dire que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et je crois que je réponds un peu à cette définition. Effectivement, je m'occupe d'un festival depuis 3-4 ans maintenant. Effectivement, j'interviens en festival parce que je suis régisseur billetterie, régisseur bar dans certains festivals avec des gens bien sympas. J'ai travaillé avec Julien et toute l'équipe du CEPEL et Aurélien sur quelques enquêtes, et j'en ai fait aussi moi en parallèle à côté. Il y en a une qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, effectivement, c'est le festival No Logo, puisqu'en fait, Florent, qui a lancé le festival en 2013, il accueille, je vous fais la petite histoire vite fait, hein. Il accueille une stagiaire, parce que je suis prof à la fac, je m'occupe d'une formation, et il accueille une stagiaire à moi, et je vais en visite chez lui, on discute, machin, et on parle de, tiens, qu'est-ce que pensent les festivaliers de ce festival ? Parce que c'est quand même un modèle économique très particulier, hein, c'est une utopie en acte, hein, où en fait... le festival ne vit que de l'argent des festivaliers. Il n'y a pas de mécène, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de subvention. Et tout ça a lieu dans un village qui compte 1700 habitants à l'année. Et tout d'un coup, il y a 13 000 campeurs et 16 000 personnes par soir qui débarquent dans ce village, qui est à quelques encablures de Besançon. Donc c'est effectivement de la ruralité, puisque c'est quand même dans une communauté de communes très rurale. Et puis c'est un peu, ouais, comme je le disais, une utopie en acte, parce qu'en fait, ouais, ça, le festival, qui est aujourd'hui un festival de 2,3 millions d'euros de budget, qui fait 54 000 festivaliers par an, c'est quand même et qui est devenu, par la force des choses, mais aussi par son positionnement spécifique, puisque le festival est uniquement sur les esthétiques reggae, dub, raga, etc., dancehall, et un peu de rap, etc. Et vraiment, c'est vraiment un ovni un peu dans le paysage culturel, puisqu'en fait, il ne vit que de l'argent des festivaliers via la billetterie et via ce que le festival engrange en recettes sur place, via les bars, etc. Donc effectivement, depuis 2015 maintenant, parce que les premières années, on ne s'était pas rencontrés, mais on a mené 9 enquêtes annuelles auprès des festivaliers pour voir un petit peu ce qu'ils ressentaient par rapport au festival. Donc effectivement, mais en tout cas, le festivalier, il est au centre du festival. Effectivement, comme on l'a dit ce matin, Julien, il a parlé de territorialisation, on pourrait dire. Alors du coup, forcément, c'est des festivaliers qui sont de Besançon. Alors effectivement, c'est vrai. pas tout à fait, mais quand même, il y a plus de la moitié de la population qui vient de Franche-Comté. Donc, en fait, c'est quand même un festival globalement franc-comtois. C'est eux qui pilotent le festival. Hein. C'est via l'enquête, via cet outil, que en fait, toutes les décisions stratégiques de développement du festival, elles sont prises. Toutes les décisions sont prises un peu main dans la main. Quand on parle d'augmentation de la billetterie, des tarifs, par exemple, parce que bah, les coûts augmentent. Quand on parle de l'évolution du camping, par exemple, hein, où sur le camping, il y a par exemple deux chapiteaux de cirque, bah, il y en a un très gros et puis il y en a un qui est un peu plus petit que celui-là, où en fait, il y a des activités toute la journée, il y a plein de choses à y faire, etc. C'est une vraie ville dans le village, quoi. Hein, c'est, on implante dans un village de 1700 personnes, tout d'un coup, un camping de 12 000 personnes avec des toilettes sèches, avec une vision un petit peu raisonnée, ou en tout cas, où on essaye de minimiser l'impact du festival, parce que ça reste quand même, effectivement, comme on l'a très bien souligné ce matin, quand même des grosses usines à voilà, consommer, quoi. En tout cas, en ruralité, alors le festival, il est effectivement en ruralité, il a quelques difficultés, parce que par exemple, cette année, c'est la dernière édition à Frézan. Pour des raisons qui sont un peu techniques, régies, mais aussi politiques. Sur les raisons politiques, le festival il s'est implanté à Frézan pour des raisons politiques, parce qu'il y avait des accointances à fut un temps. Ces accointances n'existent plus. Du coup, les relations avec le festival et entre la mairie et le festival sont devenues un peu compliquées. Alors, l'idée, c'est pas de tirer sur les collectivités, hein, parce qu'on sait que ça a son lot de nuisances, etc. Et qu'on pourrait dire pour des habitants que tout d'un coup, une bande d'hurluberlus avec des dreads et des camions et des chiens. J'ai rien contre les gens qui ont des camions et des chiens. C'est, en tout cas, c'est un peu. Voilà, en ruralité, c'est un peu inhabituel. Pour la petite histoire, donc, la mairie, la municipalité a fait un sondage auprès des habitants pour dire « Est-ce que vous êtes d'accord que le festival soit encore là ?» En se disant bah, « Ils vont tous dire non parce que en fait, ça les fait chier. » Pardon pour les enfants. Eh bien non, en fait, 85% des habitants étaient très contents que le festival existe. On parlait ce matin des impacts environnementaux du festival. Alors, ce festival, il travaille sur ces questions-là. On parle aussi de l'impact économique du festival. Le festival, il apporte aujourd'hui dans le territoire environ 3,5 millions d'euros. C'est ce qu'on a en tout cas estimé via l'enquête qui a été faite en 2019 et celle qui a été faite l'année dernière qu'on a réexploitée. Et finalement, le festival était très bien accueilli et pourtant, le festival s'en va. Donc aujourd'hui, le festival est à la recherche d'un nouveau lieu. Alors il y a des discussions qui sont actuellement menées avec différentes communes ou villages, en tout cas, du Jura principalement. Mais effectivement, une des difficultés, c'est que ben, aujourd'hui, on a quand même le plus gros festival de reggae qui est franc-comtois, ben, qui est sans domicile fixe. Et ce qui est quand même un peu dommage, voilà, en plus, vu le modèle économique, puisqu'il ne coûte rien aux contribuables, et que c'est même plutôt un pourvoyeur d'affaires, quoi. Voilà.
C'est parfait. Alors, si on avait été tous là ici, Fabrice Creux, vous aurez parlé un petit peu de son dispositif qui s'appelle le PAC culturel, qui gère ici avec le département, qui est un dispositif qui permet aux communautés de communes d'accueillir notamment du spectacle vivant. Ils sont quand même plutôt tournés autour du spectacle vivant, en signant un contrat entre l'intercommunalité et le département, et ce qui permet d'obtenir en deux fois des sommes importantes, hein, c'est 10 000 euros quand même, pour réussir, alors qu'ils sont mises moitié-moitié par la collectivité et par le département autour de spectacles, donc pour le développement d'une offre territorial qui est en lien avec son territoire. Mais pour faire le lien avec Boris, à qui je vais redonner la parole par rapport à ce que tu as dit, Stéphane, c'est sur la question du modèle économique, finalement. C'est assez intéressant. Toi, Boris, avec Hélène, vous avez fait le choix d'un modèle économique. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler de modèle économique. C'est vous qui allez nous dire ça. Parce que vous êtes installé récemment, pas très loin d'ici, à Lyophant. Et vous avez un projet déjà bien avancé de développement d'une offre culturelle dans le village, mais hors de tout circuit officiel, on va dire.
Je ne sais même pas par quelle boule prendre, tellement c'est amusant, en fait. À me présenter, oui, alors même Boris, enchanté. Moi, je viens du cirque. En fait, j'étais circassien quand j'étais plus jeune et ça m'a donné envie. Enfin, on s'est assez rapidement rendu compte que si on voulait monter des spectacles un peu décents, il fallait de la technique. Je suis parti me former en technicien de spectacle et j'ai arrêté 25 ans plus tard d'être technicien de spectacle. Et j'ai arrêté pour des raisons très précises. J'ai toujours fait à part lors de ma formation, j'ai toujours fait attention de bosser dans le public, justement parce que j'aimais bien cette logique de diffusion, de mise à disposition et d'aller auprès du public jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était plus vrai du tout. Je suis arrivé dans la fin fin des années longues et j'ai arrêté en 2019, où là au contraire, toute cette partie justement d'éducation populaire et de mise à disposition et de diffusion de spectacles avait disparu et je me retrouvais à servir, je me retrouvais à faire 70-80 heures par semaine pour un directeur et un conseil d'administration. Donc, allez vous faire foutre. Et on est passé à quelque chose de beaucoup plus rigolo. On a monté, là, le dernier truc qu'on a monté, c'est effectivement une association qui s'appelle les Liofans Roses. Initialement, c'était parce qu'on voulait distiller, il nous fallait un nom drôle. Alors, comment distiller à Liofans, les Liofans Roses, c'était chouette. Mais finalement, on est passé à autre chose. Et donc, le principe, finalement, j'y réfléchissais ce matin en écoutant les festivals, on va être sur un schéma exactement inverse du festival tel qu'on le connaît actuellement. Là, on commence tranquillement dans notre jardin, on fait un concert. Très bien. Ou autre chose, on peut présenter une petite pièce de théâtre, on peut présenter une conférence, on peut faire une expo. On peut très bien faire une expo dans un jardin, c'est pas un souci. On a finalement juste besoin d'un petit parc technique, il se trouve qu'on l'a. On a besoin d'une tireuse, ça c'est toujours important. Des toilettes sèches, c'est pas con les toilettes sèches. Et finalement, avec ça, eh ben, c'est parti, quoi. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose dans son jardin, eh ben, on peut lui mettre à disposition. Donc l'étape suivante, ce serait logiquement d'avoir d'autres personnes qui réagissent. Ça, ce serait la toute première étape, qu'on puisse utiliser d'autres jardins. Et puis de fil en aiguille, je me dis, on s'arrange avec quelques artistes. On trouve un plasticien, on trouve un conteur, on trouve un conférencier, éventuellement un danseur, un petit groupe. Et finalement, on en fait un catalogue qu'on peut proposer aux gens. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez, tel jour, enfin si vous voulez, on peut venir chez vous, à vous de choisir l'artiste et à vous de choisir le jour. Et on pourrait faire un petit festival de jardin qui serait pas forcément limité à Liofans. Hein. Ça peut être, genre dans l'idéal, ça pourrait être dans tout le département, quoi. Bon, évidemment, il fallait qu'on habite à une des extrémités du. C'est con. Si on habitait au centre, ce serait plus simple, quoi. Mais bon, voilà. Donc c'est pile l'inverse de ce qu'on entendait ce matin, enfin du modèle où justement tous les spectateurs viennent au même endroit. Là, c'est le festival qu'on emmène chez tout le monde. Ah, le modèle économique, il n'existe pas. On démarre. Si je reprends l'exemple du bibliobuste, en fait, si on veut faire une bibliothèque de prêt gratuit, on se doute bien qu'il y a quand même des frais induits. Donc, on a commencé à sortir notre stand. On a absolument rien amené aujourd'hui parce que j'ai oublié. Mais si vous voulez savoir ce qu'on fait, ben invitez-nous sur vos manifs. C'est vraiment, on a un super stand. Hein. On a que des trucs super drôles, des t-shirts formidables. Le mien aussi, il est super. On a plein de petits objets, des affiches très drôles. Donc voilà, il fallait qu'on vende ça pour pouvoir finalement ne serait-ce que payer l'essence, quoi, genre, tout bêtement, et puis un petit peu l'entretien du camion. Il fallait que ça puisse participer. Et là, mais par contre, on se retrouve finalement, et c'est bien le problème, tu parlais des politiques à l'instant, on se retrouve de temps en temps à devoir choisir d'être dans l'illégalité pour que ça puisse fonctionner quand même. Après, quand on peut, on se remet dans les clous, mais souvent on le fait a posteriori. Il faut d'abord lancer l'activité pour pouvoir avoir une première rentrée qui permette de continuer l'activité. Et voilà, je suis vraiment navré pour eux, mais ils nous emmerdent, quoi. Les subventions, on a décidé d'abandonner complètement parce qu'on a vu, enfin Hélène et moi avons une expérience associative énorme, et je vous jure, on a vu des choses en... Mais c'est complètement incroyable. Des gens qui refusent une subvention, qui t'en accordent que la moitié, on dit « Ouais, mais ils t'accordent déjà la moitié ». Non. Ils t'accordent que la moitié parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le dossier qu'ils ont sous la main, ils ne l'ont pas lu. Ils t'accueillent, ils n'ont même pas lu ton dossier, quoi. Ou un autre, sur un budget de 6000 balles, il te refile 5000 balles, et dans le journal, tu découvres qu'il s'est totalement approprié la manifestation ou l'événement, ou genre « Mais... » Non, mais stop, ça suffit, vous nous emmerdez, vraiment, vous êtes des vrais freins, quoi. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, pas tout le monde. Mais j'en connais plus. Donc voilà, on mise de rien, on part à l'arrache et ensuite ça s'équilibre, plus ou moins.
Là, on est vraiment dans ce qu'est l'alternative culturelle et les modèles à penser et l'expérimentation finalement. Et c'est ça qui est intéressant par la ruralité. Je vais te redonner la parole, Hélène, un petit coup pour que tu nous dises un peu dans ton expérience comment finalement on construit dans des territoires. Toi, tu as commencé beaucoup, tu as beaucoup été dans des quartiers populaires. Là, tu as été amené, tu as fait le choix pour Capitale Française de la Culture d'aller plutôt dans des villages plus reculés, dans la ruralité. Comment tu as réussi à construire cette offre au plus près aussi des habitants pour les rendre partie prenante?
Bon, alors après, moi, effectivement, déjà, je viens de Franche-Comté. C'est quand même pas rien. Ouais, ça s'entend, ouais, je sais. Il n'y a que quand je joue que j'ai pas l'accent, ça, c'est chiant. Moi, je crois, enfin, c'est comme cette journée aujourd'hui. Je crois vraiment à la rencontre et je crois à aller pointer ou contacter les gens qui sont les plus à même d'être à l'écoute, les plus à même d'être intéressés, les plus à même de nous accueillir et de participer. Ça paraît peut-être bateau, hein, ce que je dis. Mais en fait, donc le bus, moi, donc je suis nulle en com, je suis nulle en sub. Voilà. Heureusement, j'ai d'autres qualités, qui est de rencontrer facilement. En fait, je suis restée très rédaction, moi, intro, plan par trois, conclusion. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher les sous. Là, pour Capital de la Culture, ok, j'avais une enveloppe. Une enveloppe de 25 000 euros, ça ne m'était jamais arrivé. Didate, donc 2 500 euros. Il y a d'abord, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce projet ? Donc, la MAO, la rencontre avec l'autre, avec la musique. Il y a qui on veut toucher. Donc, nous, quand on a été rencontrer le commissariat artistique de Capital, moi, il voulait que j'aille dans les quartiers. Parce que Hélène et son bus, ils vont dans les quartiers. Ça fait 10 ans, effectivement, je vais dans les quartiers. Vraiment comme les Duc Pop, hein, moi, comme ceux qui viennent, vous savez, à Planoise ou ailleurs, qui viennent et puis ils font pendant 4 jours parcours aventure. Ils construisent des cabanes, des échelles avec les gens. Nous, on vient avec le bus, on sort un outil. Donc l'outil peut être aussi bien une zone d'inactivité totale comme tout d'un coup du slam. Donc on va sortir panneaux de feuilles, fil à linge, enceinte. Et donc pour Capital, c'était on sortait tout ce qui était matos. Donc qu'est-ce qu'on y fait ? C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Des musiciens. Ok. Nous, avec cette enveloppe de 2005, on n'allait pas non plus être 3 intervenants, payer des cachets et tout. On voulait aussi diffuser de la musique. Donc sur différentes dates des 10 dates, on a fait venir des artistes. Donc Marc Prépus de Chalon-sur-Saône, Adeline de Belfort, enfin de Ronchamp. Musique post-bourgeoise, il y en a un qui est d'originaire de Bourgogne, mais ils sont à Paris, pour développer ça. Donc voilà, c'était ça. Et puis après, évidemment, c'est là où on va. Donc, moi, quand ils m'ont dit dans les quartiers, j'ai dit non, parce qu'en fait, toute l'année, on y va dans les quartiers. Comme je vous disais, là, on vient avec le bus, on sort des choses. Et puis, les 73 communes du Pays de Montbéliard, ben, comme on dit, c'est ruralité. Donc, on a ciblé vraiment des villages. Enfin, donc, on a pris la carte de PMA. On a commencé à Maté, parce que c'est le centre de PMA, et puis que Maté, il ne s'y passe pas plein de choses. Il y a Haroun Animation qui est installé là-bas, que j'adore, mais sinon, il ne s'y passe pas grand-chose. Et donc, on est parti de ça. Donc, on a dit, allez, on prend Maté, et puis après, on va aller vraiment là où il n'y a pas. Donc, on a décidé d'aller nord-est, nord-ouest, etc., etc. Et pour ça, moi, je me suis dit, ben, en fait, il faut contacter les mairies. Donc, on a appelé, en fait, les maires. Il faut savoir qu'il faut quasi les appeler toute la semaine, hein, parce que les mairies des petites ruralités ne sont quasi jamais ouvertes. Donc, tu peux jamais les contacter. Donc, nous, en fait, comment on fait ? Ben oui, on contacte les maires. Donc, on a vraiment contacté les maires. Quand tu leur dis, en plus, on a un projet gratos, déjà, ils sont contents. Donc, on y a été. Et puis après, pour vraiment être sur du territoire, et puis comment est-ce qu'on fait et comment on gère ça, on a contacté les associations de ces villages. Donc, l'association d'école, l'association du comité de la TEUF, l'association... voilà. Et c'est à chaque fois eux qui mettaient en place les goûters. Enfin, en tout cas, ils pouvaient aussi gagner un peu de sous pour leur asso. Et ça permettait qu'ils fassent venir les jeunes, ils fassent venir les enfants. Voilà. Donc nous, c'est vraiment... Enfin, moi, je reste très basique. Si je veux venir dans un village, je vais voir le maire. Si je veux qu'il se passe quelque chose, je vais voir les femmes, les mamans ou les assos. Enfin, vraiment, c'est comme ça que j'estime, en fait, que ça fonctionne. Je ne crois pas au réseau de l'argent. Enfin, voilà, moi, je fais partie des gens petits. Je dis pas qu'on reste petit, hein, je veux dire, j'ai même rencontré le Dalai Lama. Mais il y a un truc où, en fait, si je viens faire quelque chose dans un village ou un quartier, je veux que vraiment la plupart, en fait, la majorité de la population puisse y avoir accès. Et pour ça, c'est pas en allant voir le préfet ou je sais pas qui. pour moi, c'est vraiment... Ben, si tu vas dans un quartier, c'est toucher les mamans, en fait. On pense, parce que voilà, les papas sont absents, les ados, ils fument des pétards, ils vont venir te voir, hein, mais ils vont fumer des pétards. Les enfants, oui, mais ils vont être collés à toi et ça sera pas non plus... voilà. Les mamans, voilà. Moi, je sais que maintenant, tu vas dans un quartier, tu vas contacter les mamans. Les mamans, elles savent tout faire. Elles connaissent tout le monde. Si tu veux y aller, t'y vas. Elles vont venir avec leur gâteau. Ça va amener un vrai truc. Moi, j'aurais pu... Enfin, nous, on amenait des fois le... On a toujours... Alors, il faut savoir que moi, dès que je fais un truc, on a à manger et à boire. Il y a plein de gens qui ont envie de se nourrir de culture, mais avant ça, il faut quand même avoir le ventre plein. Et moi, j'estime qu'on a au moins cette possibilité-là. Donc, on fait toujours... on adore la mortuassienne hein, de Pontarlier. On essaye de faire des choses locales parce qu'on en a plein. Donc, on amène toujours à boire, à manger gratos. Par contre, il y a aussi tous ces villages que j'essaye de vivre. Donc, quand on y vient, il y a un moment donné, il y a nous qui venons apporter quelque chose, un savoir-faire... un partage, un spectacle, de l'émotion. Mais il y a aussi ce truc que tout d'un coup, le village aussi se rencontre, quoi. En plus, on est quand même, il ne faut pas se leurrer, dans des villages beaucoup d'extrême droite, quand même, chez nous, hein, faut quand même le dire. Et du coup, on n'est pas forcément tous à se parler. On est quand même dans un... Aussi, à Montbéliard, c'est quand même... Fapé-Mombé, c'est quand même Peugeot, hein, c'est quand même aussi ouvrier. Donc, on a plein de cultures qui sont là. Et pourtant, les gens... Bah, je trouve que c'est de pire en pire au niveau de plus rencontrer, quoi. Ça marchait bien avant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pire. Et du coup, moi, voilà, c'est vraiment les maires que je vais voir pour leur proposer bah, voilà, de savoir à quel moment c'est le mieux pour eux, quel jour. Et puis les associations. Voilà, c'est pour qu'en tout cas, ça ait de l'impact et puis que tout le monde y participe au maximum et qu'on ne vienne pas vendre non plus du rêve pour après repartir. Il y a un truc où... Coucou, on est là, c'est super ce qu'on fait, puis salut, on s'en va parce que... Ben voilà. Non, il y a vraiment un truc dans la continuité, et c'est vrai que cette année, grâce à Studio Mobile, on a tellement sympathisé aussi avec certains qu'on nous a proposé de revenir pour telle fête, de revenir pour telle école. Enfin, moi, c'est toujours comme ça, en tout cas, qu'on a réussi à travailler, ce que je disais tout à l'heure à la clé à molette. Il y a un truc où je suis nulle en com, mais du coup, avec le bus, par exemple, on fait des cafés solidaires dans les Emmaüs. On vient proposer du thé, du café. On dit aux gens, comment vous allez? Bah, ça va, pourquoi? Vous nous vendez quoi? Ben, on vend rien. On veut juste savoir. Et en fait, comme ça, ça a permis qu'on fasse visiter le bus et qu'on explique ce qu'on fasse et qu'on ait des gens qui nous appellent pour faire des choses. Donc, nous, voilà, on a vraiment appelé les villages et les assos.
Oui, je me permets de vite choper le micro au passage. C'était vis-à-vis du modèle économique. Évidemment, il n'est pas très rentable, notre modèle économique. Mais en fait, on ne fait pas vraiment ça. Notre commerce, on commerce avec les gens. On est là pour avoir des échanges. On est là pour expliquer. On leur vend de l'artisanat. Et on a le temps de raconter plein de choses à ces gens-là. On a le temps de les rencontrer. On a le temps de se rencontrer. Et en fait, la paye, elle est là.
Je rajoute juste une petite chose, parce que pour nous, c'est exactement pareil. Nous, enfin, jamais on a cherché un lieu. C'est à chaque fois qu'on fait un festival que, du coup, les gens nous rappellent, on vous a vu là, est-ce que vous ne pourriez pas venir là? Et c'est aussi pour ça que maintenant, on arrive quand même à bouger en Franche-Comté, mais aussi maintenant, bien autour.
Alors, tu rajoutes quelque chose très rapidement, que j'ai le temps de redonner la parole une fois à Stéphane.
En fait, oui, par rapport à ce qu'elle dit, juste le bus, quand il est arrivé en 2015, juste pour dire ça, c'est que moi, j'avais mon bus, j'étais trop content, je me dis, c'est cool, on a notre outil et tout. Et en fait, la première fois que j'ai voulu sortir, c'était au marché à Sochaux. Et donc j'arrive au matin à 6h du mat avec mon bus, puis là, le vigile du marché il vient me voir, puis il me dit bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis je viens me garer, je fais du café solidaire, tout ça. Ah bah non, mais t'as une autorisation? Eh ben non. J'ai oublié ce petit truc, c'est qu'en fait, dès qu'on a un véhicule, ou même pas qu'un véhicule, une compagnie ou quoi, de théâtre, on doit quand même demander une autorisation d'occuper l'espace public. Et voilà, c'est ça que j'ai oublié. Donc en fait, à chaque fois, par contre, qu'on doit venir quelque part, je dois quand même avoir un papier. Et depuis Plan Vigipirate et le Covid, c'est devenu un truc de dingo. Alors moi, il y a eu des fois devant les mairies où j'ai dit, ben non, là j'ai un papier, un dossier de 10 pages à remplir, il en est hors de question, tant pis pour vous, vous n'aurez pas l'action, je m'en vais. Et souvent, ils te disent, ok, on le remplira pour vous, venez quand même. Mais oui, il y a quand même autorisation de l'espace public. On ne fait pas ce qu'on veut, en fait.
Ça m'échappe totalement, mais c'est très bien. L'idée, c'est que vous puissiez parler entre vous. Mais voilà, on est avec des gens alternatifs. Stéphane, toi, tu as aussi une autre... Tu as fait notamment des diagnostics, tu as travaillé sur des diagnostics de territoire et tu me disais qu'à ton sens, un des outils, enfin, tu peux peut-être nous parler de ce qui est pour toi, un des outils hyper importants pour justement développer cette présence culturelle sur les territoires.
Quand j'écoute l'exemple de Hélène, en fait, elle a fait un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic sensible de territoire. C'est-à-dire, elle est allée à la rencontre des habitants d'une communauté de communes, elle leur a proposé une activité artistique et via cette activité artistique, tu as récolté la parole des habitants, Et ben ça, c'est ce qu'on fait quand on fait un diagnostic sensible de territoire, quoi. Alors après, il faut rendre compte, etc. Et c'est le rôle de l'universitaire qui va travailler avec les compagnies qu'on met sur le territoire et qui vont à la rencontre des habitants. Mais c'est exactement la méthodologie là. Donc ce que vous faites aussi, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et je pense que ça, c'est des outils qui pourraient permettre de justement réinventer les industries culturelles créatives au profit des habitants, dans une démarche plutôt vertueuse et en répondant directement aux attentes des habitants. Enfin, en tout cas, on est carrément dans le vrai, quoi. Eh ben, moi, je vous dis banco. Donc, non, mais sur la méthodologie, on est carrément là-dedans. Et vraiment, tous les outils-là, c'est absolument très, très bien développé. Moi, j'ai travaillé rapidement sur celle de la Comcom Terre d'eau de Vittel, où en fait, là aussi, hein, régulièrement, les communautés de communes, elles doivent mettre en place ce qu'on appelle des CTEAC, c'est des trucs, des acronymes chiants, pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait dans un territoire rural où en fait, bah, on ne sait pas ce qu'on peut proposer aux gens, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Bah, on fait un diagnostic sensible avant de proposer une politique culturelle, et c'est un outil de diagnostic, ce genre d'initiative, et qui permet de rendre compte. Donc on fait un premier tour d'essai, et à la fin de ce tour d'essai, on sait ce que les gens attendent, les habitants. Donc par exemple, dans la Comcom Terre d'eau, il avait été décidé de faire, suite au diagnostic sensible, tout un travail autour de l'écriture. Voilà. Et ensuite, les élus et la communauté de communes a mis en place tout un ensemble d'actions culturelles à destination des habitants sur la thématique de la culture. Alors ça peut passer par des arts visuels, des plasticiens, ça peut passer par de la musique ou du théâtre, mais ça dépend de la sensibilité des habitants. Et ces initiatives-là, elles permettent de définir ce que les attentes du terrain, quoi.
10 minutes, parce que du coup, c'est vraiment l'écho avec la roulotte du charabia, où du coup, pendant 11 ans, on a fait les marchés, etc. On avait 120 événements par an avec une roulotte alimentaire, où on traînait des grilles, on animait un réseau d'échange réciproque de savoir, où du coup, on interrogeait le public sur leur savoir, ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient offrir, ce qu'ils avaient envie de recevoir comme savoir. En même temps, du coup, c'est ça qui a permis derrière d'installer un lieu, parce que du coup, c'est vraiment ces mêmes personnes qui nous ont dit, nous, on aimerait bien qu'il y ait ça sur le territoire. Et donc, c'est ça qui nous a fait créer un lieu, mais vraiment par et pour les habitants. Et s'il n'y avait pas eu ces 50 roulottes avant, je pense qu'on n'aurait jamais eu ce réseau gigantesque qui, du coup, a créé une force qui n'a pas duré.
J'aimerais insister sur un fait qui saute pas forcément aux yeux. Par exemple, le bus, c'est quelque chose de spectaculaire. La roulotte, spontanément, c'est quelque chose de spectaculaire. Mais ce sont des choses qui sont en fait simples à mettre en œuvre. Et il suffit de le faire. Et vraiment très concrètement, oui, bien, on n'a même pas de structure juridique pour le bibliobuste. Finalement, c'était une camionnette dans laquelle on a mis des étagères et on a fait appel à nos potes pour des livres. Et puis derrière, on a trouvé une solution pour les distribuer. Il y a plein de choses. Le festival dans le jardin, c'est très simple à mettre en œuvre. Le bus, l'idée est très simple. Évidemment, derrière, il y a du boulot, mais ce sont des choses qui sont accessibles. Voilà. Et moi, j'espère bien, chaque fois qu'on sort, chaque fois qu'on va quelque part, j'espère bien qu'on réussit à montrer aux gens qu'en fait, ils pourraient très bien s'y mettre. Ils ne sont pas obligés d'aménager un camion. Ils peuvent aménager une remorque, ils peuvent aménager une bagnole, ils peuvent le faire derrière un vélo s'ils ont envie. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire.
C'est intéressant parce que ça montre que finalement, accélérer les industries culturelles et créatives, ça peut être aussi revenir quelque part à des choses finalement très simples qu'on peut faire avec aussi le lien social. Pour terminer, Cédric, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots de... Il y a ce centre qui est construit quand même ici. Quel impact ça va aussi avoir? Parce que des cracks comme ça, il n'y en a pas tellement en France. 8, hein, je crois. Ou... Voilà, c'est ça. Comment vous, est-ce que ça peut vous aider, vous, ici à l'Odyssée du Cirque, à continuer votre action? Comment ça peut vous aider à vous développer comme ça?
C'est drôle parce que pour le coup, par rapport à l'ensemble des interventions, on a, nous, un mode de fonctionnement qui est finalement beaucoup plus classique. On est beaucoup moins alternatif. Mais en fait, c'est pas qu'on n'en a pas envie. C'est pas qu'on n'est pas... je pense que philosophiquement, on est raccord, mais c'est juste que nous, il y a une réalité économique qui fait qu'à un moment, moi, j'ai 5 salariés dans la structure ici. J'ai 5 salaires à sortir. Et jusqu'à il y a 2 ans, on avait créé un festival ici où on faisait venir des compagnies professionnelles qui venaient jouer. C'était un très beau moment d'échange et de rencontre avec nos artistes amateurs. Je dérive un peu, hein, mais c'était un très bon moment de rencontre avec nos artistes et nos élèves, etc. C'était quelque chose qui était très apprécié. C'était quelque chose qui était légèrement financé par la région en particulier, mais malheureusement c'était quelque chose qui était absolument pas rentable. C'est terrible à dire, mais finalement c'était quelque chose qui nous coûtait beaucoup d'argent, et on a été obligé de l'arrêter. Et donc on est revenu à des formes beaucoup plus simples où on n'invite plus de compagnies professionnelles et on fait tout avec nos élèves. Mais malheureusement, on n'a plus cette rencontre, cet échange avec des artistes. Et tout ça parce qu'on est, bah, on est bloqué par cette réalité économique et cette nécessité de sortir, je vous dis, sain de salaire, de payer le chauffage, de payer l'électricité, avec les coûts exponentiels du chauffage. Et puis comme de toute façon, ici, on chauffe l'extérieur avant d'arriver. Enfin bref, c'est très très compliqué. Donc notre, c'est ça notre réalité. Et pour le coup, et je rebondis sur ce que tu disais, le besoin d'avoir un lieu fixe, dur, une salle d'activité, c'est développer notre activité, c'est se faire connaître, mais c'est aussi quelque part réduire nos coûts de fonctionnement. Parce que ici, alors là vous avez encore un peu de chance, aujourd'hui il fait à peu près beau, mais quand il fait vraiment beau, vous n'auriez pas supporté de rester ici à peu près plus d'une demi-heure tellement vous auriez eu chaud. Et puis réciproquement, en plein mois de décembre, on annule régulièrement nos séances parce qu'à peu près en dessous de zéro, le chauffage ne fonctionne plus c'est invivable ici. Donc on a ce besoin d'avoir une salle en dur et cette salle en dur, on ne peut l'avoir que grâce au soutien de la communauté de communes qui nous l'a financé. Hein, ce n'est pas du tout nous qui le payons et ce n'est pas du tout nous qui finançons les 2 millions d'euros qui sont là-bas. On n'a pas de subvention particulièrement de nos partenaires, de la communauté commune, etc. Mais on a cet outil-là qui, pour le coup, est le sol où on est ici, qui, pour le coup, est une subvention en nature, mais qui est indispensable pour notre survie. Donc, ouais, nous, on aimerait être un poil plus alternatif et un poil plus libre de temps en temps. Je sais que certains de mes salariés le réclament. Malheureusement, on a la réalité économique qui fait qu'il faut sortir des salaires.
On n'aura pas eu aujourd'hui Diane Camus qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais sa petite fille est hospitalisée depuis 2 jours. Diane Camus, elle est architecte et elle a fait une thèse, elle a soutenu une thèse sur les initiatives artistiques en milieu rural du point de vue de l'architecte, c'est-à-dire elle nous aurait apporté ici un point de vue de regard de quelqu'un qui travaille à l'aménagement du territoire et à comment les initiatives artistiques peuvent contribuer à aménager le territoire. Alors je vous dis ça, c'est juste pour vous frustrer parce que je ne pourrais pas vous en dire plus malheureusement, mais je vous invite à aller regarder parce qu'on trouve des résumés de sa thèse sur internet très facilement. Et donc, tout ça est très intéressant. Je vous remercie vraiment, parce qu'on est sur un timing génial, et que ça nous laisse du temps pour pouvoir répondre à des remarques, à des réflexions, à des questions de la salle, parce que là, on a soulevé quand même beaucoup de choses. Comme tout à l'heure, je vais prendre peut-être plusieurs remarques, et puis après, je referai circuler le micro.
Merci beaucoup, l'ensemble des interventions. Ces partages d'expériences sont très, très riches. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est comment est-ce que... vous n'avez pas de modèle économique, vous sortez complètement de la marge, pour produire quelque chose. J'ai eu cette expérience-là aussi, mais il me semble qu'il faut restituer parfois des réalités qui ne sont peut-être pas financières, mais qui sont de l'ordre aussi des ressources, parce qu'on confond souvent le modèle économique et financier du modèle des ressources dont on dispose pour aller à la marge. Parfois, pour aller à la marge, il faut vraiment des millions de courage, et c'est une ressource. Parfois, pour aller à la marge, il faut aussi se poser sur l'épaule de quelqu'un d'autre qui est dans un modèle classique. Moi, j'ai dû, quand je devais sortir de ma marge, j'ai dû reposer sur une agriculture parce que je faisais de l'élevage au village pour avoir des ressources, pour quitter le système dans lequel j'interrogeais ces pratiques. Je me suis reposé aussi sur l'épouse, sur les épaules de mon épouse, qui, elle, pouvait payer le loyer, s'occuper des enfants, en tout cas faire remplir le frigo, parce qu'elle était fonctionnaire de l'État, et que, m'appuyant sur ses épaules, je pouvais faire la bifurcation pour chercher quelque chose. Donc parfois, quand on dit qu'on sort de la marge, faisons attention au discours. On sort d'un modèle de ressources uniques pour chercher d'autres ressources et qui sont de la solidarité, qui sont de la compréhension et qui sont de l'ordre aussi de partage et de l'échange. Parce que ce discours de sortir du modèle économique, le monde politique et le monde économique nous écoutent et l'utilisent parfois contre nous. Si vous pouvez donc faire sans nous, on va s'orienter autrement. Donc la question que je voudrais poser, c'est juste partage d'expérience. Comment est-ce que vous, quelles sont les ressources sur lesquelles vous êtes appuyé pour avoir le courage et la force d'être à la marge pour inventer quelque chose d'assez vertueux, d'assez riche, d'assez encourageant?
Eh bien, c'est une très vaste question. On va peut-être en prendre quand même deux autres.
Oui, j'ai une question pour toi, Cédric. Tu as parlé de la question de la mobilité et du train, des difficultés. C'est quelque chose qui ressort tout le temps, voilà, pour les artistes, que ce soit pour les gros instruments ou petits instruments, enfin plus petits en tout cas. Les remorques notamment, hein, pour les personnes qui tractent, des choses qui n'ont pas forcément un bus, enfin bref, qui essayent d'être dans la mobilité à leur manière. Est-ce que tu as des pistes pour savoir comment faire du lobbying, ou je ne sais pas comment le dire, être force d'influence auprès... là, du coup, j'ai l'impression que ça se situe au niveau de la région, donc au niveau des TER, tout ça. Est-ce qu'il y a des pistes? Parce que nous, on a été contactés par la Nouvelle-Aquitaine. Là, on va discuter avec eux la semaine prochaine, je crois, aussi. Donc, on va voir ça avec eux. Je sais qu'en Occitanie, ils essayent de forcer aussi pour ça. À Avignon, il y a eu ce truc de navette aussi. Donc, voilà. J'aimerais bien avoir ton retour des stratégies, partage d'expérience aussi, pour que le plus de gens fassent front commun à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, merci.
Peut-être une dernière question ou remarque, Vincent ?
Oui, moi j'ai été touché par la remarque de Boris, en fait, qui est un peu de l'ordre de la posture, quand tu disais, finalement, c'est assez simple de faire, de se lancer avec peu de choses, on peut aller. Je pense que c'est une posture qui est... qu'on peut traduire dans peu importe la situation dans laquelle on est, et où finalement on a toujours le choix entre une posture un petit peu attentiste, où on dit voilà, on est en face d'ambitions, de changements qui sont énormes, de problématiques qui sont énormes, et on nous renvoie sans cesse le attend. Je ne sais pas, le respect d'un cahier des charges attend le respect de la commande, des règles de commande publique, l'étude de marché. Il y a toujours une raison. Oui, voilà, l'étude de contexte, etc. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas se lancer et attendre, toujours attendre, alors que les échéances se rapprochent par rapport aux questions environnementales. Et donc l'idée de commencer par agir, même si c'est micro, même si c'est pas complètement à la hauteur de ce qu'on ambitionne, et puis petit à petit construire à partir de ça et changer les choses à partir de ça, je trouve qu'elle est universelle. On peut, quelle que soit la place où on est, moi je suis fonctionnaire dans une administration qui a ses propres contraintes, on a chacun nos propres contraintes dans des structures dans lesquelles on est, mais on peut choisir d'intervenir, d'être acteur, se donner le droit d'agir et commencer par agir simplement, modestement, et puis lancer une dynamique à partir de ça. Je pense que c'est une bonne leçon.
Oh, mais il y a de quoi alimenter des réponses intéressantes. Je commence par vous parce que vous êtes tout près et on fera circuler sur la question des ressources.
Oui, moi j'aime bien la question sur les ressources parce qu'effectivement, moi je pense que j'ai fait partie quand même longtemps aussi des gens qui avaient plein d'envie et puis qui n'osaient pas le faire. Et en même temps, je me suis rendu compte dans le plongeon total de l'histoire du baratin, où du coup j'ai arrêté un boulot, j'avais trois gamins que j'élevais seule à l'époque, etc. Où d'un coup tout le monde s'est mis contre moi, en me disant tu te rends pas compte, t'as des enfants, après ils vont faire des études, comment ils vont faire, t'es vachement égoïste de faire ça. Alors que j'avais au contraire le sentiment de faire quelque chose, au contraire, de faire un bien commun, en fait. Et en plus, j'avais pour moi aussi la ressource d'avoir un réseau, et ça, c'est pas rien. J'avais un gros réseau, parce que du coup, à l'époque, je coordonnais une cité des métiers, il y en a plein en France, et c'est un super outil d'éducation populaire dédié à l'emploi, gratuit, sans rendez-vous, anonyme, etc., qui du coup coordonne une pluralité d'acteurs. Donc j'avais en plus cette expérience-là professionnelle. Donc je pense que notre passé, notre expérience, évidemment, c'est une ressource. La ressource, c'est qu'on est deux aussi. Si on parle de pouvoir ouvrir le frigo, enfin manger dans le frigo, effectivement, on est deux. Donc là, en ce moment, c'est moi qui suis plutôt en panne et soit quand même la ressource. Le mois prochain, ça va être moi. Voilà, c'est aussi quand même une certaine chance. Hein. On n'est pas non plus en grande pauvreté. Je veux dire, par contre, on est en vraie sobriété. Hein. C'est vrai, ça veut dire ça aussi. On consomme complètement autrement. Maintenant, on a un jardin, on essaye de troquer. Enfin, voilà, il y a ça aussi qui rentre en jeu, un autre mode de vie. Et puis, en fait, on a peur, mais en fait, j'ai vu avec le baratin qu'en fait, on apporte des fois une idée originale sur des festivals avec la roule autour. Les gens sont contents de nous voir, en fait. On apporte une joie, quelque chose. Et du coup, beaucoup nous disent « Ah, oh, mais c'est génial ce que vous faites. Moi aussi !» J'aurais bien voulu faire ça. Et du coup, après, il nous apporte un soutien, un autre soutien. On est parti en Creuse avec le bibliobus. On devait dormir chez quelqu'un. Bref, on n'a pas pu. Du coup, on n'avait plus de logement parce qu'on avait la bibliothèque dans le camion. Donc, on va faire quoi ? En pleine Creuse, quoi. Et bien, en fait, au bout d'une demi-heure, on avait une tente, une couette, le matelas, enfin, tout ce qu'il fallait. Après, on a eu 4 ou 5 jours d'accueil chez les bénévoles du festival. Enfin, voilà, qui sont devenus des amis, entre guillemets, d'ailleurs, dont un sociologue qui travaille sur les lisières, d'ailleurs. Très intéressant. Enfin voilà, c'est ça aussi, quoi, à un moment donné, on a peur et en même temps, grâce à ces ressources, hein, bien sûr, finalement, ça se passe pas trop mal, quoi.
Je voulais, oui, je. Alors, malheureusement, Vincent, j'avais une super réponse et bien évidemment, je l'ai perdue. Là, je suis vraiment désolé. Ouais, c'était. Ouais. Par contre, je voulais revenir sur la norme, hein, sur la norme et la marge. Alors déjà, quid, qui était là le premier, la norme ou la marge, qui a créé l'autre, et il est à peu près évident que pour nous, avec notre mode de fonctionnement et le goût qu'on y a, le goût qu'on y a, c'est que ben, pour nous, la marge, c'est la norme. Enfin, je veux dire, la norme, on la regarde de loin, quoi. Mais elle nous alimente, c'est évident. Il n'y a pas une idée qui soit spontanée, elle est forcément issue de ce qui nous entoure, de nos influences, donc ça, on a besoin d'elle. S'il n'y avait pas la norme, on serait normaux. Ah. Et Vincent, oui, il y avait un truc à répondre. Évidemment, il y a la faisabilité. Les choses sont plus ou moins faciles à faire, mais en tout cas, elles sont faciles à lancer. Mais surtout, comme moteur, il y a l'envie. Avant tout, on a envie que ça se passe autrement, ou on a envie que ceci arrive, ou si tu veux des poireaux, tu as intérêt à les planter. Voilà.
Oui, ta question, c'était sur la question. C'est marrant parce que je t'entendais parler d'aménagement du territoire, et puis c'est bon, c'est des sujets sur lesquels professionnellement je travaille un petit peu aussi. Alors, je n'ai aucun pouvoir pour faire venir une gare jusqu'à ici, ou le train jusqu'à ici, ça c'est clairement impossible, ce serait beau. Non, nous, on travaille plutôt avec l'Interco pour travailler sur la question du transport. Alors, on a une réflexion, enfin, il y a une réflexion, c'est pas nous qui l'alimentons, mais il y a une réflexion au niveau de l'aire urbaine Belfort, Montbéliard, Héricourt, sur laquelle on se trouve actuellement pour arriver à terme unifier les réseaux de transport et donc avoir un réseau de transport peut-être un jour sur le pays d'Héricourt qui pourrait desservir le site ici. Moi, sur comment on peut faire pour... En fait, ce qui nous intéressait ici, c'est qu'on ne soit pas la seule structure culturelle à être ici. Et l'intérêt qu'on aurait ici, ce serait que se développe un vrai pôle culturel, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Il y a plusieurs projets qui sont en cours au sein de la communauté de communes pour implanter d'autres structures culturelles ici. Il y a un projet de salle de musique actuelle qui pourrait venir ici. Et ces projets pourraient nous faire avoir plus de poids pour, quelque part, justifier une ligne de bus régulière, pas régulière, depuis la gare jusqu'à ici, qui pourrait nous aider à faire venir plus facilement nos jeunes nous connecter plus facilement au réseau de transport. L'enjeu, c'est de se connecter à la gare, hein, de toute façon, pour être mieux desservi. Voilà, après, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions à part faire un peu de lobby. Et puis, bon, il s'avère que moi, professionnellement, j'arrive à avoir un petit peu de poids ici, donc ça aide un petit peu. Mais c'est du lobby pour arriver et puis un peu de chance. Voilà.
Mélangé avec vos deux réflexions, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Enfin, voilà, moi, je sais que j'attends pas d'avoir une maison, une piscine, un chien de race. Non, c'est pas ça. Mais quand vous disiez, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, attention à ce qu'on dit parce que effectivement, après les politiques, ils ont besoin de nous, mais on a peut-être, on leur demande plus rien. Enfin, je suis d'accord avec toi. En fait, après, si tu veux, je trouve que dès qu'on va demander de l'aide ou des subventions, c'est quand même des gros dossiers. Je veux dire, on est artiste, on peut pas tout être administratif. Moi, j'ai pas un bureau énorme avec des gens. Enfin, c'est des bénévoles. Hein, on est une asso. Moi, je sais que par exemple, là, sur ces 15 années, enfin, faut pas se leurrer, hein, par rapport à ce qu'on disait. Pour vous donner juste une anecdote, le bus, quand je l'ai acheté en 2011, donc, je voulais faire un projet avec un bus qui avait 20 places, moi. Parce que je voulais travailler avec des jeunes en difficulté, puis faire de la tournée aussi avec eux. Donc 20 places, je me disais que c'était bien, parce qu'on montait un petit spectacle, puis je voulais vraiment faire 6 mois de séjour de rupture. Donc aller en Inde ou pas, mais en tout cas, voilà, 6 mois de séjour de rupture, où on les accueille dans un lieu, comme par exemple l'Odyssée. On fait 3 mois ensemble. Ceux qui veulent faire de l'artistique font de l'artistique, ceux qui veulent construire, se construisent, ceux qui veulent faire de la bouffe, puis après on part. Et puis, quand j'ai monté le bus, donc en 2014, j'ai appelé Monsieur Renard de Vénissieux, du centre des véhicules, où tu récupères plein de papiers officiels, en fait, pour homologuer un véhicule. Hein. Donc, c'était un transport en commun de personnes avec 57 places. Il devient un VASP, véhicule aménagé spécialisé. En 2014, quand je l'appelle, je lui dis, voilà, moi, donc je suis à la fin de mon projet d'aménagement, il me faut les derniers papiers, j'ai 20 places. Et là, il me dit, mais Hélène, tu sais qu'en 2015, ton bus, il part à la casse ? Putain, je lui dis, bah, comment ça ? Bah, il me dit, en fait, Sarkozy, il a posé des directives en 2012. En 2012, Sarkozy, il a dit, tout le parc européen doit avoir des ceintures de sécurité. Donc Pologne, partout, un parc européen. Tout le parc européen lui a dit « Ouh, vous êtes cinglés, là, le monde économique va s'arrêter, on ne peut pas, en quelques mois, mettre des ceintures de sécurité à tous les véhicules. » Ils ont dit « Ok, on va donner 3 ans à tout le parc européen pour équiper ces véhicules de ceintures de sécurité. » Et en 2015, tous les véhicules devront être équipés. Avant d'équiper les véhicules, ils ont décidé de faire sur tous les modèles, toutes les années des véhicules lourds, des tests au niveau de la sécurité routière. Il faut savoir que tous les bus d'avant 2000, tous les gens restaient assis sur leur siège avec la ceinture, mais c'est le siège qui partait dans le pare-brise en fait. Donc, ils ont décidé en 2015 d'enlever tous les véhicules d'avant 2000, donc ils les ont vraiment, hein, de 2012 à 2015, ils ont retiré du coup tous les véhicules partout, hein, Roumanie, partout en Europe. Et donc, il n'y a plus que des bus, je parle bien des transports en commun de personnes, hein, donc les bus qui transportent des personnes, ou les autobus, ou les autocars, hein, de voyage, scolaire, de ville, etc. Tous les bus, maintenant, sont à partir de 2000. Vous ne verrez jamais un véhicule TCP qui sera avant 2000. Et là, je lui dis, là, je pleure hein, au téléphone. Hein. Il faut savoir que ça fait 4 ans que j'aménage mon bus, que j'ai plus une thune, que je n'en peux plus. J'ai osé parce que j'avais envie et que pour moi, effectivement, la marche, c'est la norme. Mais attention, hein, ça fait 4 ans que moi, je rame. Hein. Alors après, j'ai un travail à côté, mais je rame. Et là, on m'annonce que mon bus, il est plus homologué en TCP. Il va pas être homologué en VASP. Qu'est-ce que je fais, moi, en fait ? Enfin, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Et puis là, il me dit... Moi, j'ai une idée, Hélène. Okay. Il me dit, en fait, tu enlèves tes 22 places, tu ne gardes que 9 places assises. Dès qu'on n'est plus à 10 places assises, on n'est plus en transport en commun de personnes. On n'est plus en véhicule transport de personnes, bus, quoi. Il me dit, tu gardes 9 places. Et là, je lui dis, alors attends. Donc, en fait, les transports en commun de personnes, tous, ils sont enlevés parce que c'est trop dangereux. Par contre, si tu aménages pour ta famille, pour une asso, un véhicule à 9 places, je peux le garder. Ben oui, parce que ce n'est plus un transport en commun de personnes. Donc, tu pourras l'avoir, même si tes sièges, si un jour tu as un accident, partiront dans le pare-brise. Mais là, il m'annonce par contre, Hélène, ce n'est plus un permis bus. Je lui dis, pourquoi ? Ben parce qu'il y a moins de 10 places assises. Il dit, maintenant, ton bus, tu pourras le conduire qu'avec un permis poids lourd. Donc, j'ai eu mon bus qui avait plus du tout mes 20 places pour mon projet. J'avais plus que 9 places parce que de toute façon, je n'allais pas l'arrêter là. Par contre, j'avais un permis D qui ne me permettait plus de conduire le bus que j'avais. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. C'est super, on a des envies, des idées, super. Mais je vous avoue que ce décembre 2014, je m'en rappellerai toute ma vie. Je remercie Monsieur Renard. En plus, Monsieur Renard, je trouve ça quand même sympa, qui m'a annoncé tout ça. Parce que j'aurais eu un con en face de moi ou quelqu'un qui n'avait pas envie de se donner les moyens. Ben moi, je me retrouvais. Parce qu'il faut savoir que, comme maintenant c'est France Travail, Pôle emploi, ANPE, ASELIC, il faut savoir que pareil, au niveau des aménagements des véhicules, on avait la DRIR. C'est devenu la DREAL. Et puis c'est devenu autre chose. Et puis toutes les personnes qui bossaient là-dedans n'étaient plus du tout spécialisées là-dedans. Donc moi, ça a commencé dans le Var et puis après Belfort. Mais si ce monsieur Renard de Vénissieux n'avait pas eu comme... Nous, aujourd'hui, là, dans ce chapiteau, cette envie de faire des choses, cette envie d'être ensemble, cette envie que ça soit pas le capitalisme qui nous aussi, qui prenne le dessus, si ce monsieur n'avait pas pris le temps d'entendre que j'étais désespérée, que j'avais plus de thunes et que je ne savais pas que mon bus partait à la casse si j'avais pas ces 20 places, que si je gardais 9 places, je pouvais le garder, mais que par contre, j'allais devoir repasser un permis, ben, je ne serais pas là aujourd'hui avec ce bus, quoi. Et je tiens à dire aussi que durant ces 15 années, donc voilà, c'est juste pour dire que ça a été très laborieux. Et pour finir d'aménager ce bus, je suis allée aux têtes de l'unité lors d'un kapouchnik pour demander à tous les artistes amis que j'avais à la sortie de ce kapouchnik où c'est tout au chapeau, qu'ils me donnent tous leur enveloppe de sous parce qu'il me manquait exactement 1 457 € pour le terminer. Et tout le monde m'a donné cette enveloppe, enfin son enveloppe, et j'ai eu 1 600 € dans la poche grâce à la solidarité. Et effectivement, si à un moment donné, il n'y a pas de solidarité, moi, pendant ces 15 années, je n'ai pas fait que ça. Hein. Aujourd'hui, je suis à nouveau intermittente et c'est super, mais j'ai eu un autre travail en fait avec ce bus et j'ai toujours eu en parallèle cette envie parce que je m'estime artiste et que je veux faire des choses dans les quartiers, dans les villages pour les mamies de 80 ans à leur fenêtre. Mais à un moment donné, la dure réalité fait que je pouvais pas non plus vivre, que j'ai aussi un petit garçon et qu'effectivement on est toujours aussi à se remettre en question. Après, je pense que l'artiste tout le temps est inquiet. Il nous manque deux œuvres, enfin deux cachets. Il nous manque, et chaque fois, on se dit, est-ce que je continue ce métier? Et c'est ce qui rend beau. Enfin, comme je pense aussi au niveau de la nourriture et de plein de choses. Mais voilà, je sais qu'en tout cas, heureusement qu'on rencontre des gens compétents. Et heureusement qu'on a vraiment une grosse chaîne de solidarité et des gens qui nous soutiennent. Sinon, effectivement, je serais pas là aujourd'hui, quoi. Voilà.
Moi, au niveau des ressources, on a, ouais, pour, non, mais c'était très bien. D'ailleurs, c'est. Pour répondre au niveau des ressources, si je prends le cas par exemple du festival No Logo avec lequel je travaille, par exemple on pourrait s'appuyer sur des bénévoles. Sauf qu'on sait tous que le bénévolat, on sait les difficultés qui sont liées aujourd'hui au bénévolat, mais par exemple le festival, il n'y a pas de bénévoles en fait, on est tous payés en fait. Et hein, c'est tout, on fait tous partie du staff. Donc je pense que les ressources sur lesquelles Florent il peut s'appuyer, c'est aussi toute cette équipe parce qu'on se connaît. Tous, on est tous un peu là depuis longtemps, etc. Et on compte pas toujours les heures au quart d'heure près, donc heureusement. En termes de ressources, effectivement, pour mener un festival où en fait le seul modèle économique c'est le festivalier, enfin repose sur les festivaliers, faut s'appuyer sur eux. Et c'est un peu la richesse de l'étude que je mène avec eux depuis 10 ans. En fait, hein, on est passé d'une étude où on avait 1000 réponses à peu près. Et l'année dernière, il y a 3 400 personnes qui ont répondu à l'étude, ce qui est une super, un vrai plébiscite. Dans le questionnaire, on leur demande si on respecte bien les valeurs, s'ils sont d'accord avec ce qu'on fait, s'ils comprennent le concept, etc. Parce qu'il y a encore quelques années, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de bénévoles, par exemple. Il y a des gens qui venaient au festival sans forcément s'y intéresser vraiment. Effectivement, en termes de ressources, il faut être un peu, je crois, un peu comme les gens autour de la table, un peu cinglé, quoi, parce que faut aimer, faut y croire et puis faut y croire beaucoup. Florent, je le côtoie régulièrement et effectivement, il est un peu complètement fou, quoi, de se lancer dans un truc de 2,3 millions où quand il ouvre la porte du festival, il manque 900 000 €. Enfin, il faut être complètement cinglé. Effectivement, sur les réalités économiques, par contre, effectivement, on est coincé entre deux trucs. Alors, soit faire appel au marché, et en fait, c'est ce que fait Florent. Hein. Florent, le reste de l'année, il n'a pas que le festival, il a développé une activité aussi de régie de spectacle, etc. Donc, il a une boîte à côté qui permet d'équilibrer un peu et puis d'amener quelque chose dans le frigo. Et puis, parfois, on est obligé de travailler avec le public, et parfois, c'est compliqué parce qu'ils ne répondent pas toujours dans le bon sens, ou parfois, on tape à côté, ou voire ils ne répondent pas du tout.
Je crois qu'on a eu un bon panorama de tout un tas d'alternatives, de leurs limites, des conditions dans lesquelles elles se déroulent. Je pense qu'Hélène t'a donné envie à tout le monde par rapport à ton bus. Mais on ne va pas y aller maintenant parce que je vous encourage à rester là parce qu'on va quand même avoir une prestation des élèves du cirque ici. Donc on est sous chapiteau, on va en profiter. Mais tout à l'heure, après la fin de la dernière table ronde, on aura un petit peu de temps avant le concert et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous approcher du bus, aller le voir et puis découvrir ça un petit peu mieux. Donc, on va laisser la place pour que les gens du cirque puissent s'installer. Merci. Merci à vous.